Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue dans Europe Midi qui reprend son cours habituel avec l'ensemble de la rédaction et après plusieurs jours de grève. Merci de nous être fidèles, il est midi et demi. La Hongrie en marge de l'Europe, la loi de Viktor Orban qui interdit la représentation de l'homosexualité auprès des mineurs fait bondir les dirigeants européens à l'ouverture de leur sommet. Bruxelles en direct dans un instant. La SNCF porte plainte après qu'un de ses TGV a été la cible de tir hier soir à Marseille, à l'approche de la gare Saint-Charles. Pas de blessés mais un impact très visible sur la rame. Au procès de Willy Bardon, le doute sur la principale pièce à conviction, un enregistrement de 30 secondes pendant le meurtre d'Elodie. Jean Castex et Olivier Véran annoncent un plan d'attaque contre le variant Delta. Ils appellent un regain de la vaccination. Les Bleus joueront lundi leur 8e de finale de l'Euro contre la Suisse. Invité l'Europe Midi, l'humoriste Marc Jolivet qui publie ses souvenirs sous le titre « Mémoire d'un artistocrate » chez Robert Laffont. Une vie aussi drôle qu'une série de sketchs.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'Europe se fâche contre un de ses membres, c'est arrivé souvent, mais pour la première fois, il ne s'agit pas de gros sous, de subventions ou de fiscalité. Ce sont les droits et les valeurs du continent contre la loi hongroise qui interdit la promotion ou même la représentation de l'homosexualité auprès des mineurs, loi qualifiée de honte par la présidente de la commission von der Leyen. 17 dirigeants de pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, appellent solennellement au respect des valeurs fondamentale. C'est une lettre commune publiée ce matin, 2 heures avant l'ouverture du sommet de l'Union, Isabelle Horry.
Oui, Emmanuel Macron et les autres chefs d'État et de gouvernement promettent de continuer à lutter contre les discriminations envers la communauté LGBTI. Ils écrivent aussi qu'ils vont veiller à ce que les générations futures grandissent dans une atmosphère d'égalité et de respect. La lettre ne désigne pas expressément la Hongrie, mais Viktor Orban est clairement visé, lui qui va s'asseoir dans quelques minutes à la même table que les signataires. Sa loi provoque chez une majorité de ses collègues un grand malaise et de l'émotion, sans doute plus que d'autres qui ont pu viser les juges ou les journalistes, car comme le souligne un diplomate, cette fois il y a une dimension humaine d'éducation, ce n'est pas juridique, on parle des enfants. Certains veulent donc une discussion les yeux dans les yeux tout à l'heure. De son côté, la Commission européenne a déjà lancé une procédure d'infraction, une lettre a été envoyée à Budapest qui liste tout ce qui n'est pas conforme aux valeurs et aux droits européens. Pour le moment, l'homme fort de Budapest reste droit dans ses bottes. Son gouvernement dénonce de fausses allégations. Il sait qu'il aura des alliés cet après-midi, comme le premier ministre polonais. La Pologne, où certaines villes avaient mis en place des zones LGBT-free déconseillées aux LGBT.
Isabelle Horry en direct de Bruxelles pour Europe 1. Dans l'actualité ce matin, on a appris qu'un TGV a été la cible de tir à Marseille juste avant son arrivée en gare Saint-Charles. La SNCF porte plainte, Stéphane Frangy.
Oui, même si la prudence reste de mise, hier soir, un peu avant 21h30, le TGV qui est en provenance de Paris sort d'un long tunnel aux portes de la ville en approche de la gare Saint-Charles. Il y a à ce moment-là plusieurs impacts, notamment sur une des baies vitrées côté voyageurs qui est étoilée, et pas traversée, seulement étoilée après le choc, sans faire de blessés. La circulation ferroviaire est totalement interrompue sur cet axe pendant plus d'une heure et demie, le temps de premières constatations sur les voies et aux voyageurs qui sont bloqués dans les autres trains. La SNCF évoque alors des jets de pierres, mais en interne. On m'explique que les dégâts ici sont bien plus importants que ceux relevés habituellement après de simples jets de projectiles. On s'oriente donc, selon toute vraisemblance, sur des tirs d'armes à feu. Alors, combien précisément, de quel calibre et pour quel motif la rame en question est à disposition des enquêteurs qui vont tenter de répondre à ces premières interrogations.
Omar m'a tué, cette inscription désignait-elle le vrai coupable ? 30 ans, jour pour jour, après la découverte du corps de Ghislaine Marchal, le 24 juin 91, les avocats de son jardinier, Omar Radad, jugé coupable de ce crime, viennent de déposer une nouvelle demande en révision de sa condamnation, appuyée sur des analyses ADN, maître Sofia Nowakowicz.
Nous sommes à un grand tournant historique dans cette affaire. Symboliquement, on est à 30 ans. 30 ans de la mort de Madame Marchal, nous sommes le 24 juin. Donc symboliquement, je considère que c'est une date qui est fondamentale parce que ça fait 30 ans que mon client souffre. 30 ans qu'une femme aussi a été tuée dans des conditions extrêmement sauvages et un homme a été accusé injustement et condamné injustement. Un innocent aujourd'hui se bat depuis 30 ans pour prouver son innocence. Omar Haddad, même s'il n'est pas là aujourd'hui, il est là avec moi en pensée parce que il attend énormément, énormément de ce procès en révision. Les éléments nouveaux que j'apporte sont essentiels. Le simple doute doit désormais permettre de réviser un procès. Or là, tout le monde est d'accord, vous, moi, on est tous d'accord pour dire qu'il y a au moins un simple doute.
Maître Sofia Nowakowicz, au micro Europe 1 de Justin Morin, ce matin devant la cour de cassation où elle déposait cette requête. À Douai, devant les assises du Pas-de-Calais, débats, expertises et dépositions se poursuivent depuis des heures autour de l'une des seules pièces à conviction contre l'homme accusé du meurtre d'Élodie Kulik, Willy Bardon. C'est un appel au secours de la victime, un enregistrement de 26 secondes où deux voix d'hommes sont audibles. Hier, les experts se sont montrés très réservés sur l'identification de Bardon, mais ce matin, certains de ses proches affirment le reconnaître, Lionel Gougelot.
Oui, et le témoignage le plus accablant, c'est celui de Cathy, ex-compagne de Grégory Viard, celui qui avait été identifié post-mortem comme le violeur d'Élodie Kulik. Elle a bien connu Willy Bardon quand il faisait des virées en 4x4 avec la bande de copains. Et elle a reconnu les deux voix sur la bande-son et donc celle de l'accusé. Droite comme un i à la barre, tête haute, regard fixe vers la cour et bien décidée à ne pas flancher, elle affirme « J'ai bien reconnu sa voix, j'en suis sûr, les gendarmes ne m'ont pas influencé, je ne l'aurais pas reconnu si ce n'était pas le cas. » Une certitude qui renforce la conviction des parties civiles que Willy Bardon était bel et bien sur les lieux de l'agression. Didier Seban, avocat du papa d'Élodie.
Elle a quand même entendu cet enregistrement une vingtaine de fois. Elle a été questionnée, re-questionnée à plusieurs reprises sur cette conviction entendue par le juge d'instruction. Donc voilà, c'est une femme qui sait de quoi elle parle, qui sait l'enjeu de ce qu'elle dit, et qui le dit devant la cour, droit dans les yeux, si j'ose dire, c'est Willy Bardon que j'entends dans cette cassette.
Le frère de Willy Bardon, René, témoigne à son tour. À l'époque, en écoutant l'enregistrement, il avait reconnu des intonations semblables à celles de son frère, tout en refusant de l'identifier formellement, malgré les questions insistantes des gendarmes. Et il précise, ils avaient l'air mécontents que je refuse de confirmer ce qu'ils voulaient entendre.
Lionel Gougelot, à Douai pour
Europe Midi. Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, l'alerte au variant Delta.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Jean Castex et Olivier Véran en déplacement ce matin dans les Landes, département qui connaît un regain épidémique lié à la présence du variant Delta, l'ex-variant indien.
On a constaté une reprise de l'épidémie. Le taux d'incidence a redépassé le seuil de 50 pour 100 000 habitants récemment et on a identifié, certes en nombre limité, mais en nombre suffisant pour que cela nous mobilise, la présence de ce variant Delta. Donc la situation des Landes, il ne faudrait pas qu'elle préfigure le développement de ce variant. C'est la raison pour laquelle nous essayons de mettre en place toutes les actions nécessaires.
Jean Castex, alors Anne Le Gall, une seule réponse face à cela, la vaccination?
Voilà, pas question de relâcher le rythme des injections, a rappelé Jean Castex ce matin. Dans les Landes, le variant Delta représente donc aujourd'hui 70% des cas positifs. Et il y a quelques jours, l'Agence régionale de santé indiquait que les personnes contaminées étaient plutôt non vaccinées. Or, selon une étude britannique, même face au variant Delta, les vaccins Pfizer et AstraZeneca permettent d'éviter les hospitalisations dans plus de 90% des cas, à condition d'avoir reçu deux doses. D'où l'appel à la responsabilité des Français, même au-delà du seul département des Landes, car en France, le variant Delta plus contagieux est impliqué dans 10% des nouvelles contaminations et il risque même de représenter fin août 90% des nouvelles infections en Europe, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Ces experts mettent en garde contre un relâchement trop rapide des gestes barrières cet été, tant que la population n'est pas totalement vaccinée. Et en France, un tiers des adultes seulement ont reçu leurs deux injections.
Anne Le Gall, une histoire à présent qui sème le trouble dans les milieux catholiques. L'écrivain François Sureau vient même d'adresser une supplique au pape en faveur de cette religieuse de Pont-Callec, mère Marie Féréol. Il n'a pas été entendu. Hier, le Saint-Père a confirmé son renvoi définitif sans explication de la communauté des Dominicaines du Saint-Esprit. Sanction aussi rare que radicale en vertu du droit canon. Pierre Herbulot.
La scène se passe à l'automne dernier. Marie Féréol est escortée par deux émissaires du Vatican. Elle doit quitter sur le champ la communauté religieuse bretonne dans laquelle elle vit depuis 34 ans. Une exclaustration dans le droit de l'Église. Elle est condamnée par décret à l'isolement dans une abbaye de la Sarthe. Interdiction de contacter ses proches comme une sorte de prison religieuse. Pour quel motif ? Une faute grave, sans rapport avec des affaires de mœurs, pas plus de précision, ni même la chance pour la sœur d'avoir un procès religieux équitable, raconte aujourd'hui son avocate Adeline Le Gouvello.
Elle a été privée de toute défense, ce qui est vraiment très choquant. Et on ne peut pas imaginer ça de manière universelle et encore plus au sein de l'Église. Par exemple, au temps de l'Inquisition, il y avait un vrai procès avec des avocats. Il y a vraiment une incohérence, une absurdité de la situation. On n'a aucun acte fautif qui lui ait été concrètement communiqué. On nous a juste dit ce qu'elle n'avait pas fait, c'est-à-dire elle n'a pas commis d'abus sexuels. Donc on ne saura pas quels sont les faits.
Et l'Église n'a plus besoin de s'expliquer. L'affaire est définitivement bouclée. Aucun recours possible. Le mystère reste donc entier, ou presque, sur les raisons de cette exclusion. Une simple querelle théologique pourrait finalement en être à l'origine, d'après des témoignages recueillis par l'avocate. Une fidèle aurait reproché à Marie Féréol son interprétation des textes de saint Thomas d'Aquin, avant de faire jouer ses relations à Rome pour éloigner la bonne sœur de la communauté.
Pierre Herbulot, football, plus de 15 millions de téléspectateurs hier soir pour voir les Bleus se qualifier en huitième de finale après un match intense et surprenant contre le Portugal de partout. Prochain rendez-vous lundi en Suisse, contre la Suisse, pas plutôt, à Bucarest. Et d'ici là, Simon Rubin.
Oui, alors le programme des Bleus, il est en train d'être finalisé, mais à la base, l'équipe de France avait prévu, en cas de première place, de rester en Hongrie. Alors pas à Budapest, hein, pas en pleine ville. Le staff des Bleus a réservé un hôtel du côté de Gardoni. C'est une toute petite ville d'à peine 10 000 habitants dans la campagne hongroise. L'idée, hein, c'est vraiment de s'isoler, de rester au calme, de retrouver un petit peu la nature aussi, hein, de pouvoir sortir facilement. Et l'idée, c'est de ne rejoindre Bucarest en Roumanie que la veille du match. Hein, ce serait donc le dimanche pour jouer le match lundi. Un match dont les Bleus seront larges favoris. La Suisse n'a clairement pas les armes pour inquiéter la France. Et si on se projette un petit peu, eh bien on aurait un quart de finale contre la Croatie ou l'Espagne. Et potentiellement une demi-finale contre la très séduisante équipe d'Italie. Alors évidemment, on n'en est pas là. Mais ce matin, et ça c'est important psychologiquement, les Bleus ont quand même une vision assez claire de ce qui les attend dans les prochaines semaines.
Yves Martin, auteur, compositeur, chanteur, est décédé. On l'a appris hier, il a fait quelques bons disques, La fille de l'explorateur, quelques bonnes chansons pour Sheila, l'écuyère, Sheila qui fut son épouse pendant 10 ans. C'est elle qui a annoncé son décès. Yves Martin fait aussi partie de la bande-son, de notre bande-son des années 70 et 80, parce que sous le nom de Lionel Leroy, il a prêté sa voix à une série de génériques.
Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Ulysse, Ulysse, au milieu de la galaxie, comme le feu.
Dallas, l'amour du risque, Ulysse, etc. Enfin bref, vous connaissez tout ça. C'était la voix de Lionel Leroy, alias Yves Martin, qui s'est éteint hier à 65 ans. Le temps... Laurent Cabrol, et sans transition, orageux dans l'Est.
Comme vous voyez, sans transition, donc orageux dans l'Est. Alors ce pourrait être le début d'une belle histoire, en se disant, tiens, les orages sont dans l'Est, donc ils vont quitter la France. C'est exactement ce qui va se passer. De sorte qu'une fois les orages partis, c'est-à-dire ce soir, eh bien nous aurons demain un temps d'éclaircie sur quasiment tout le pays. Et là, vous vous dites, chiche, ça y est, on est ressorti. On va retrouver enfin le ciel bleu. Eh bien non. Parce que demain, une autre zone de pluie arrivera par les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Et cette zone de pluie ne va pas en rester là. Durant les journées de samedi et dimanche, elle va traverser la France. Et ce seront deux journées qui ne seront pas très 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 sympathiques. Résultat, on ne voit pas à l'horizon de nos prévisions quelque chose qui pourrait être, aux couleurs d'un ciel bleu et de température chaude. Ça n'est pas encore le cas.
Merci Laurent Cabrol.